Je suis pas intelligente. C'est vrai.
La voix que vous venez d'entendre est celle d'Estrella. Quand je la rencontre, elle a 8 ans et elle est en deuxième année d'école fondamentale. Je m'appelle Pia Hoppe, je suis journaliste à Radio 100.7 et dans ce podcast, je vais vous raconter l'histoire d'un mauvais élève. Quand je dis « mauvais élève », je ne parle pas d'Estrella, mais de notre système scolaire qui s'en tire mal en comparaison internationale. C'est un système scolaire dans lequel de nombreux élèves échouent très tôt et qui, comme Estrella, ne croient plus vraiment en eux-mêmes. Pourquoi n'arrivons-nous pas à y changer quelque chose? Voilà ce que je veux découvrir dans ce podcast. Cette série en 6 épisodes est sortie en luxembourgeois en 2022 et je me réjouis de pouvoir vous la présenter maintenant sous cette version. Même si, comme vous le remarquez peut-être, le français n'est pas ma langue maternelle. Mauvais élève, un podcast Radio 100.7, épisode 1, c'est le début qui compte. Estrella a du mal à comprendre ses devoirs en mathématiques parce qu'ils sont en allemand. Elle se fait aider par sa maman, Isabelle, sa grand-mère, Teresa et Google Translate.
Wie lange dauert es?
Ça veut dire quoi?
À quelle heure? 17 heures, je n'en sais.
Je vais chercher mon téléphone.
Téléphone.
La mère d'Estrella travaille comme aide-soignante dans un hôpital. Avec ses deux filles, elle vit dans le quartier de la gare en ville. Isabelle est née au Luxembourg, mais a grandi au Portugal. Et elle est revenue ici il y a 5 ans.
J'espérais qu'Estrella arrivait à apprendre bien à l'école et pas tout garder pour faire à la maison, surtout si c'est pas notre langue et on n'arrive pas à bien expliquer et l'a aider. C'est ça, je ne sais pas comment ils ont organisé le système. Je me sens des fois un peu frustrée parce que je veux qu'elle apprenne bien. Et on travaille. Et après, avec les commentaires, je pense qu'à l'école, ils pensent qu'on ne travaille pas. Et on travaille, je me sens triste parce que j'aimerais bien de pouvoir la aider, des fois un petit plus.
Et vous, Canou? Deux,
je vais rester. Là, je suis Canodou et je dis je vais rester en 12e. Pourquoi, Fofinha?
Je suis pas intelligente. C'est vrai.
Non, ouais, non.
Regarde ça!
Non, c'était bon. Oui, c'est...
Elle déprime vraiment quand elle sait qu'elle a un test. 2 jours avant, elle a déjà mal au ventre, alors elle a peur de ne pas réussir. Et puis elle dit, pourvu que j'ai une meilleure note que la dernière. Et vraiment, ça lui travaille. Elle veut bien, mais bon.
Radio Honnat,
Der Moyes Panorama, Lohmann, Pierre Eiland.
Guten Morgen, Donngleichheiten am Lützebäuer Schulsystem gibt weiter an die Lüge. Das haben Forscher von der Uni Lützebäuer an ihrem neuesten Bildungsrapport festgestellt.
Voici Pierre Reiland, le 13 décembre 2021 sur Radio 100.7. Il informait sur les inégalités dans notre système scolaire. Vous retrouverez Pierre à d'autres moments dans ce podcast, étant donné qu'il a participé à ce projet. Revenons au rapport à propos des inégalités dans le système scolaire. Il est passé complètement sous silence à l'époque. La violence et l'utilisation du lanceur d'eau lors des manifestations contre les mesures Covid ont suscité beaucoup plus d'intérêt. En plus, les conclusions du rapport sur l'éducation n'étaient pas vraiment nouvelles. Les inégalités dans le système scolaire sont en train de diminuer. En voilà une bonne nouvelle. Et qui serait plus en accord avec ce que l'on dit souvent à propos de l'école.
La politique éducative a pour mission de permettre à chaque enfant de tirer le meilleur de lui-même.
Voilà les paroles du Premier ministre Xavier Bettel en 2021 dans son discours sur l'état de la nation. Et voici ce qu'il a dit en 2018.
L'école n'est pas un lieu de l'idéologie, mais de la liberté, de l'indépendance et de la justice.
Et en 2014,
une bonne politique éducative est une politique anti-chômage et surtout une politique anti-chômage des jeunes.
Quelque chose va donc de travers puisqu'on peut souvent déjà déterminer le succès ou l'échec scolaire d'un enfant dès la deuxième année d'école fondamentale. Les parcours scolaires au Luxembourg sont déterminés très tôt, indique le dernier rapport sur l'éducation. C'est cette phrase qui nous a poussé, Pierre et moi, à faire cette enquête. C'est une enquête qui nous a pris du temps pour pouvoir enregistrer une seule voix d'enfant dans une classe. Il faut l'autorisation du ministère, de la commune, de l'école, de l'enseignant et des parents. Même avec beaucoup de bonne volonté de la part de tous les acteurs, il a fallu plusieurs mois avant que Pierre et moi nous retrouvions avec nos microphones dans une classe. Lors de nos visites dans les écoles, nous avons pu faire des constats variés. Des fois, la situation était très difficile. Des fois, les choses étaient en train de changer. Et des fois, au contraire, on tenait à ce que rien ne change. Et partout, nous nous sommes posé la même question. Est-ce que l'école luxembourgeoise donne vraiment les mêmes chances à tous les enfants? Pour la plupart des enfants, au Luxembourg, la vie scolaire commence à l'âge de 3 ans, dans ce qu'on nomme le précoce. Donc, un an avant le début de la scolarité obligatoire à la Spielschule, l'école maternelle. Dans le précoce, on joue, on peint et on chante beaucoup.
Je m'appelle Martin Gloden, j'ai 49 ans et je travaille dans l'enseignement depuis 24 ans, surtout en premier cycle, à la Spielschule et au précoce.
Mais regardez, trouvez la cadeau.
Dans la classe de Martin Gloden, il y a 14 enfants qui parlent 8 langues différentes à la maison. Le français, le capverdien, l'arabe, le lituanien, le russe, l'ukrainien, l'italien et le luxembourgeois.
Ici, dans le quartier de la gare, nous avons au maximum un ou deux enfants dans la classe qui parlent le luxembourgeois à la maison. Parfois, il n'y en a aucun. Et cela prend un peu plus de temps dans ce cas parce que les enfants apprennent aussi beaucoup des autres enfants.
Il y a presque 20 ans, Martin Gloden est passée d'une école de village à la rue du Commerce, dans le quartier de la gare en ville. Elle a d'abord dû s'adapter au fait qu'il était désormais de sa responsabilité d'enseigner aux enfants la langue principale du système scolaire luxembourgeois.
Les premières années, c'était bizarre, mais ensuite, c'est devenu naturel. Ce qui est vraiment très important, c'est que l'on travaille beaucoup avec des gestes. On utilise aussi beaucoup d'images, des photos et des pictogrammes. Par exemple, pour le déroulement de la journée, on a accroché des photos pour pouvoir expliquer et leur apprendre ces mots.
Wir spielen und dann wir raumen. Wir machen eine Kreis und wir gucken den Kalender, ja.
Les enfants peuvent choisir un nouveau livre à emporter à la maison chaque semaine. Martin Gloden a adapté sa petite bibliothèque de classe aux compétences linguistiques des parents afin qu'ils puissent lire les livres à leurs enfants.
Qu'est-ce que j'ai comme bazar, là? À vrai dire, ces dernières années, j'ai surtout acheté en anglais. Tu préfères celui-là? Choupi? Choupi va à la plage? Je n'achète plus du tout en allemand, je l'ai fait au début quand je travaillais au village. En tout cas, peu importe la langue que les enfants parlent à la maison, ce qui est vraiment important, c'est qu'ils maîtrisent bien leur langue maternelle. Parce que c'est une bonne base pour apprendre une nouvelle langue.
Martin Gloden dit qu'elle remarque assez vite quand la langue maternelle n'est pas maîtrisée. La manière dont les enfants parlent à leurs parents quand ils sont amenés à l'école le matin est souvent une bonne indication. Et là, elle essaye alors de parler aux parents. Un problème, c'est peut-être que les parents ne parlent pas assez à leurs enfants ou ils veulent bien faire en parlant à leurs enfants dans l'une des langues de l'école, même si ce n'est pas leur langue maternelle.
Alors on leur a dit, non, parlez votre langue, ne leur parlez pas en français, vous devez parler votre langue à votre enfant. C'est votre langue maternelle et c'est important, vous la parlez parfaitement, donc l'enfant l'apprend aussi correctement. Beaucoup de parents qui ne parlent pas le luxembourgeois à la maison nous ont dit qu'ils voulaient envoyer leurs enfants dans une crèche luxembourgeoise, mais qu'ils n'ont rien trouvé. La plupart des crèches dans le quartier de la gare sont francophones. Pour les enfants qui sont doués pour les langues, ce n'est pas un problème. On a une enfant comme ça, elle parle arabe à la maison, elle a bien appris le français à la crèche et maintenant elle a aussi bien appris le luxembourgeois. Ça veut dire qu'elle parle bien sa langue maternelle, une deuxième langue et même une troisième. On voit aussi d'autres enfants qui n'avaient pas un bon niveau dans leur langue maternelle et qui ont plus ou moins appris le français à la crèche. Ils mélangent les deux langues. Et puis à l'école, ils doivent encore apprendre le luxembourgeois. C'est vraiment très difficile au début. L'échange avec les parents est extrêmement important pour Martin Gloden, pas seulement pour que les enfants apprennent à bien parler. Il est très difficile de voir une évolution positive sans la contribution des parents. Parfois, c'est vraiment compliqué. On essaie de les aider, mais les parents ont tellement de choses à faire, tellement de problèmes, et ils n'arrivent donc pas à mettre en action les choses que nous leur proposons. Dans certains cas, les parents ont fait de mauvaises expériences à l'école. Ils ont peur de l'école ou se sentent mal à l'aise pour une raison ou une autre, ce que les enfants ressentent aussi. Au précoce et ensuite à la Spielschule, les enfants sont censés non seulement se familiariser avec le luxembourgeois, mais aussi avec le français, mais pas avec l'allemand, ce qui est étonnant parce qu'après, les enfants sont alphabétisés en allemand en première année de l'école fondamentale. Le luxembourgeois est censé servir de pont vers l'allemand, mais selon le rapport national sur l'éducation, cela échoue souvent, ce qui crée de la frustration pour beaucoup d'enfants et d'enseignants.
Alors, aujourd'hui, on a cours d'allemand. Donc, il faut qu'on parle allemand. Je vous ai apporté une belle image. Où sommes-nous ici? Moi, c'est Isabelle van der Zande. Pour le moment, je suis enseignante en cours d'appui à l'école Michel Walter dans le quartier de la gare. Oui, il y a beaucoup d'animaux au zoo. Quels animaux est-ce que vous reconnaissez, Ronja? Un requin. Tu voulais dire shark? Oui? C'est un requin. Ton mot shark, c'est de l'anglais. Oui, il y a un requin.
Ronja
est en deuxième année de l'école fondamentale et la lecture est particulièrement difficile pour elle. Elle fréquente le cours d'appui avec quatre autres élèves pendant que leurs camarades de classe suivent les cours réguliers.
Ok, das heißt du gut? Dann halle nur, dann schläft und dann liest du, denke Ronja, und du auch. Okay, dann fängst du.
Raus.
Ronja a 8 ans et elle est née au Luxembourg. Sa mère vient d'Iran et son père d'Israël. À la maison, ils parlent persan. Mais elle regarde la télé et YouTube en anglais.
Faust, Lau, Mao,
Donc moi, je me concentre beaucoup sur le rythme de la langue. C'est pas seulement une question de vocabulaire, parce que le vocabulaire, il se développe beaucoup pendant le deuxième cycle. Il le maîtrise assez rapidement grâce au luxembourgeois. Mais quand il ne s'agit pas de mots utilisés au quotidien, c'est déjà plus compliqué pour eux. Ça veut dire qu'on doit rester au niveau des phrases de base très longtemps. Et c'est pas seulement difficile pour les enfants, mais c'est aussi difficile pour nous, les enseignants. Bien, nous avons appris de nouveaux verbes. Nous avons notre liste de la semaine. Et voici les verbes avec « au ». Est-ce que vous vous rappelez quels sont ces verbes ? Albin, quels sont ces verbes ? Oui, les verbes. Pas les noms, regarde ici. Ça, c'est les noms en bleu. Mais là, moi, je parle des mots en rouge. C'était la même chose pour nous en français au début. On apprenait les règles en classe, mais aussi l'orthographe et la grammaire. Mais pour le reste, on ne pratiquait pas vraiment la langue. L'enseignant parlait peut-être en français, et puis après, seuls les enfants qui se sentaient à l'aise dans cette langue la parlaient. Et moi, je n'osais jamais répondre parce que je ne me sentais pas à l'aise. Et c'est exactement la même chose avec beaucoup d'enfants en allemand aujourd'hui.
La différence, c'est que ceux qui ne comprennent pas bien l'allemand ont souvent aussi des difficultés en maths et dans les autres matières, qui sont aussi enseignés en allemand. Les élèves d'Isabelle van der Zande n'ont pas beaucoup d'occasion de pratiquer cette langue en dehors de l'école. Pendant les cours aussi, le luxembourgeois se mêle souvent à l'allemand.
La plupart du temps, quand les élèves ont des problèmes à l'école, ils ne travaillent pas non plus à la maison. Et les enfants qui sont vraiment forts, eux, ils font tous les devoirs. Mais nous, on n'est pas les parents, c'est leurs enfants. S'ils veulent que leur enfant réussisse un jour, c'est eux qui doivent faire quelque chose eux-mêmes. Il faut qu'on accepte que parfois, c'est comme ça. On travaille dans un milieu très hétérogène, il faut donc vivre avec. Donc il n'y a pas grand-chose qu'on puisse y faire. On doit s'adapter et parfois ça signifie un redoublement. Mais il faut prendre les choses comme elles sont.
Chaque après-midi, après mon temps passé avec les élèves du quartier de la gare, j'écoute mes enregistrements de la journée et mes pensées ne cessent de tourner. À l'école, des attentes de toutes sortes s'affrontent. Mais il est difficile de donner satisfaction à tout le monde. Voilà mon impression. Il y a les attentes des parents.
J'espérais que Strela arrivait à apprendre bien à l'école et pas tout garder pour faire à la maison.
Des politiciens.
La politique éducative a pour mission de permettre à chaque enfant de tirer le meilleur de lui-même.
Et celle des enseignants.
Il est très difficile de vraiment voir une évolution positive sans la collaboration des parents.
La réussite scolaire des enfants au Luxembourg dépend en effet très fortement de la famille dont ils proviennent. Cela est confirmé par la recherche. Mais les chercheurs disent aussi que cela ne doit pas forcément être le cas. Parce que dans beaucoup de pays, l'école s'adapte mieux aux inégalités. Et certains chercheurs sont convaincus que le Luxembourg pourrait faire mieux.
Je m'appelle Thun Fischbach, je suis chercheur en éducation à l'Université du Luxembourg.
Son intérêt pour la psychologie du développement est visible sur les bras de Thun Fischbach. Il s'est fait tatouer les premiers bonshommes que son fils a dessinés et qui sont devenus de plus en plus détaillés au fil des ans. Et il dit que c'est pour toujours se rappeler ce qui compte vraiment, que les enfants puissent s'épanouir. Et c'est pour cette raison aussi qu'il voyage à travers le pays avec une présentation PowerPoint dans son sac à dos et qu'il explique à tous ceux qui veulent entendre ce qui fait échouer les enfants dans le système scolaire luxembourgeois.
J'ai une liste de plus de 400 présentations, mais elle n'est pas exhaustive. Donc, je fais cela relativement souvent. Je ne peux plus m'écouter moi-même, mais j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, les autres commencent à écouter et à comprendre.
Quel est le message principal que vous essayez de transmettre ?
que ça ne peut pas continuer comme ça. Nous avons un problème évident dans notre système scolaire, et cela dès le tout début. C'est un système sous-performant. Quand je suis à l'étranger et que je change d'une langue à l'autre, tout le monde me dit « Waouh, le Luxembourg, quel super système scolaire, le multilinguisme, super !» Mais ce que les gens ne voient pas, c'est que près d'un tiers des enfants de chaque cohorte de naissance sont ainsi privés de leur éducation de base. Ce n'est pas parce qu'ils sont, disons, trop stupides, mais l'enseignement des langues est totalement incompatible avec le bagage langagier qu'apportent ces enfants.
Ken Yorso, dans les statistiques, en tant que scientifique, vous pourriez simplement observer la situation de manière distancée, mais vous ressentez la situation comme une injustice.
Je ne me suis jamais... Je ne sais pas trop comment répondre. Comme vous voyez, je suis simplement convaincu qu'un système scolaire équitable est le fondement d'une société vraiment démocratique. Et je pense qu'actuellement, en effet, la démocratie ne tient plus qu'à un fil dans de nombreux endroits.
J'accompagne Thunfischbach à l'école fondamentale de Hollerich. Ici, il s'adresse à un groupe d'enseignants et de représentants des parents.
En fait, statistiquement parlant, un enfant qui passe le fondamental avec un redoublement de cycle a moins d'1% de chance d'intégrer un lycée classique. Nous avons un système scolaire où, à 7 ou 8 ans, le sort de la plupart des enfants est déjà joué.
À la chambre de commerce, Thunfischbach s'adresse aux représentants des entreprises.
Le plus grand fléau, c'est le statut socio-économique. Donc cela, ça veut aussi dire que si j'ai un élève lusophone qui vient du quartile supérieur, point de vue socio-économique, il a des meilleures probabilités de s'en sortir dans un système scolaire traditionnel qu'un élève, un luxembourgeois de souche, qui lui vient du quartile inférieur.
La dernière étape de ma tournée avec Thunfischbach est un échange avec le syndicat des enseignants SEW.
C'est OK pour l'enregistrement.
Je n'ai pas de secret, pas de secret éducatif. Voilà, je suis très heureux d'avoir été invité. Vraiment, ce ne sont pas des paroles en l'air. Pour le reste, je n'ai pas le monopole de la vérité. Je vous donne mon avis et je vous explique pourquoi c'est ce que je pense.
La discussion se concentre très rapidement sur les difficultés liées à l'alphabétisation en allemand. Le problème est d'envergure. Près de la moitié des élèves ont du mal à comprendre ce qu'ils lisent en allemand après la deuxième année d'école fondamentale.
Ce que je me demande, c'est si...
Voici Joëlle Damé, présidente du syndicat et enseignante dans une école fondamentale de la Madeleine. 6 autres collègues syndicaux sont aussi présents.
Tout le monde parle de cette situation linguistique dans les écoles luxembourgeoises. Je me demande si c'est la bonne question. Au lieu de changer la langue d'alphabétisation, ne faudrait-il pas changer la manière d'enseigner? Ça ne sert à rien, je dis toujours la même chose.
Moi aussi, depuis 15 ans.
Il ne sert à rien de changer la langue si nous ne changeons pas les conditions de départ. Il faut changer de méthode, sinon ça ne sert à rien de changer la langue.
Le chercheur et les enseignants discutent de la possibilité de commencer à apprendre l'allemand dès la maternelle, ainsi que des avantages éventuels d'une alphabétisation en français. La question reste ouverte, mais tout le monde est d'accord pour dire que quelque chose doit changer. Après plus de 2 heures, l'entrevue se termine.
De rien, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais.
Oui, non. Quels sont les retours de ceux qui sont restés?
C'était très intéressant, mais je ne sais pas ce que nous voulions.
Il est clair que nous ne pouvons pas continuer comme nous le faisons maintenant.
Je pense qu'il y avait beaucoup de parallèles avec ce que les enseignants ressentent au quotidien. Je pense qu'on est du même avis. C'est juste un problème complexe et on comprend en partie d'où il vient. Mais alors, comment peut-on le résoudre?
Je suis convaincu que les enseignants sont un élément clé de la solution, pas le seul, mais c'est les acteurs principaux à l'école.
Sans eux, ça ne marche pas.
Vous êtes infatigable et optimiste.
Je ne pense pas. Je ne me suis jamais considéré comme un optimiste.
Alors vous êtes quoi ?
Pas pessimiste non plus, je dirais réaliste. J'ai l'impression que cette question suscite plus d'intérêt que jamais. Il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord, bien sûr, mais il y a aussi une sorte de consensus que ça ne peut pas continuer ainsi. Sinon, je pense que nous allons retomber dans une sorte de fatalisme, comme c'était déjà le cas à la fin des années 70 et au début des années 80. On savait déjà tout cela, mais on disait « nous ne pouvons rien faire ». Faire, ou nous ne voulons rien faire, voilà.
Ou on dit nous voulons faire quelque chose, mais en fait on ne fait rien.
Oui, c'est l'aveu du bout des lèvres.
Le temps de l'aveu du bout des lèvres est-il révolu ? On pourrait le penser, parce qu'il y a en effet un certain nombre de changements. Il y a maintenant des écoles internationales publiques au Luxembourg et des écoles où des classes sont alphabétisées en français. Mais cela rend-il vraiment notre système scolaire meilleur et plus juste ? Voilà les questions auxquelles Pierre et moi chercherons des réponses dans les prochains épisodes. Mais d'abord, il faut revenir un peu en arrière. La référence de Thunfisch par aux années 70 m'a fait réfléchir. Est-ce qu'il y a 50 ans, c'était aussi évident qu'aujourd'hui que notre système éducatif est injuste et qu'il a besoin d'être réformé ? Et si c'était le cas, qui ou quoi a empêché la situation de changer ? Dans l'épisode suivant, Pierre et moi allons fouiller dans les archives et nous nous mettons à la recherche de témoins.
Je ne savais pas comment apprendre autrement l'allemand aux enfants portugais et essayer de les faire comprendre. Il y avait donc une montagne de problèmes.
Je pense que cela m'a poussé à penser qu'il faut changer quelque chose. Quand on voit que la situation n'est manifestement pas juste, il faut essayer de la changer. Et quand on est jeune, on a encore beaucoup d'élan, on n'a pas encore vécu tellement de déceptions.
Mauvais élève, un podcast Radio 100.7, recherche et rédaction, Pia Oppel et Pierre Ryland, avec la participation de Tessie Treuss, Jean-Claude Frank, Rick Mertens, Chris Zion et Zemir Demic, son et arrangements musicaux, Chris Simon, coordination par Yves Stefani, traduction Philippe von Leipzig. La musique de titre Le Gassenhauer de Laure Schulwerk a été enregistré sous la direction de Laurent Varnier par des élèves du Conservatoire de la ville de Luxembourg. Merci à Joé Alf, Constantin Barbu-Ravou, Michael Kalnen, Félix Dunkel, Lori Krier, Ina Molakava, Lola Schleicher, Julian Zeredinski, Yushan Lulupang, Louis Till et Eloise Tvimumu.